Dans les années 1990, l'écrivain Jean-Paul Dubois a sillonné les États-Unis pour le Nouvel Observateur. Sa mission ? Regarder passer la vie dans les commissariats, les hôpitaux, les tribunaux, les églises et les bars. Il en a rapporté ses chroniques, qui sont autant de petits romans vrais de l'Amérique, l'Amérique de Trump avant Trump, et trace le portrait d'une société où cohabitent tous les excès, où se répandent toutes les fièvres morales et les tensions raciales. Plus de 20 ans après, elles n'ont rien perdu de leur acuité. L'Amérique m'inquiète, de Jean-Paul Dubois. Texte choisi par Laurent Martin. Une réalisation de Michel Sidorov. Cinquième et dernier épisode.
Le bon docteur Bieber. Trinidad, Colorado, 7 janvier 1999. Il y a le bout du monde. Et juste après, la petite ville de Trinidad. En son milieu coule une rivière du nom de Purgatoire. Cela a au moins le mérite de clarifier les choses. Vivent là 10 000 habitants regroupés en quelques rues que l'on dirait roulées en boule, comme un animal dans le froid. Cette nuit, il a neigé sur ces plaines désertiques du Colorado et le thermomètre est descendu à moins 5 degrés. C'est, paraît-il, dans l'ordre de la nature. Mais la nature, il y a bien longtemps à Trinidad que plus personne ne s'en soucie. Cela date de l'époque où le docteur Stanley H. Bieber s'est installé ici avec l'idée de la refondre, de la remodeler. Oui, la nature ici est une donnée assez volatile, instable, au point qu'en une trentaine d'années, 4 000 voyageurs entrés en ville pourvus d'un indéniable pénis, en sont ressortis quelques jours plus tard, affublés d'un tout aussi indiscutable vagin, quand ce n'était pas le contraire. Entre-temps, Stanley avait fait jouer ses couteaux. Alors, pardon pour la rudesse du ton et la verdeur du propos, mais, comme on dit là-bas, « Ladies and gentlemen, welcome in the sex change capital of the world ». Pour être franc, ce n'est tout de même pas le message officiel de la Maison du Tourisme, qui s'attache plutôt à vanter la beauté virginale des sites environnants, ces écrins de paix, d'air pur, d'authentique atmosphère western, et tente délicatement d'orienter le randonneur innocent vers la découverte de la toute proche réserve d'Indiens Comanches. Mais dès que l'on pousse la porte du Bob and Earl's Restaurant, ou d'un autre bar de la ville, il se trouve toujours un familier du comptoir pour proposer un autre état des lieux. Oui, bien sûr, le tourisme et les Comanches, c'est pas mal. Mais nous, ce qui nous a tenu la tête hors de l'eau pendant toutes ces années, c'est la sex change industry de Bieber. C'est comme ça. À commencer par l'hôpital. Si le docteur n'y faisait pas ses fameuses opérations, il y a longtemps qu'il serait fermé. Vous ne pouvez pas savoir tous les gens qui sont passés par ici. À une époque, ils arrivaient de tous les coins de la planète, et très souvent avec les amis de la famille. Tout ce monde couchait à l'hôtel, mangeait dans les restaurants, traînait dans les bars, louait des voitures, achetait de l'essence, des fleurs, des souvenirs. Pour un endroit comme Trinidad, Bieber, c'est un vrai filon. Paola Manini, directrice du Trinidad History Museum, va même au-delà de cet audit flatteur. Le docteur mériterait qu'on consacre une exposition à sa vie et son œuvre. Trinidad a connu 3 grandes périodes dans sa courte histoire. D'abord, à la fin du 19e siècle, le temps des grands troupeaux. Située sur la piste de Santa Fe, la ville était alors une halte fameuse, tenue par quelques éleveurs et autres maîtres de la viande. Des années plus tard, sous les pâturages, on découvrit une mine de charbon et tout le monde s'engouffra un temps dans ces galeries de la modernité. Enfin, en 1954, un jeune médecin, tout juste démobilisé après la guerre de Corée, arriva à Trinidad pour ouvrir un cabinet sur Main Street, au dernier étage du petit immeuble de la First National Bank. Il s'appelait Stanley H. Bieber et avait fait ses classes dans un MASH, une de ces unités militaires chirurgicales d'urgence, réputées pour leurs opérations à la grenade et à la scie sauteuse. Sans le savoir, Trinidad et Bieber cinglaient déjà vers l'âge d'or. 15 années durant, il cantonna sa pratique à l'ablation d'appendice, de foie, de poumons, opéra des tibias, des hanches, des ménisques, recousit des arcades et surtout accoucha à toutes les parturientes du comté. Bieber ne comptait pas ses heures, ni ses nuits, ni ses jours. En 1969, poursuit-il, tout a changé. À cette époque, il m'arrivait de travailler assez souvent avec une assistante sociale. Un jour, cette femme entre dans mon cabinet. Je la revois encore. Elle était assise exactement là où vous vous trouvez. Et elle me dit « Stanley, contrairement à ce que tu crois, je suis un homme. Avec un machin d'homme et tout ça. Je veux que tu m'opères, que tu m'enlèves tout, que tu me transformes en vraie femme. » Vous imaginez une affaire pareille en 69 à Trinidad? Des transsexuels, je n'en avais jamais vu. Je ne savais même pas ce que c'était. Bieber se renseigne, contacte un médecin de New York qui a déjà fait ce genre d'intervention et qui, par téléphone, lui dicte quelques conseils techniques et la marche à suivre. Je l'entends encore me dire, pour simplifier, disons que vous allez appliquer une procédure assez proche de celle que vous utilisez dans les cas de cancer de la prostate. Le téléphone coincé contre l'épaule, Bieber prend sous la dictée, fait des croquis sur des bouts de papier. J'avais l'impression que ce gars-là me parlait depuis la lune. J'écrivais tout ce qu'il me racontait. Je dessinais même certains points anatomiques. Vous savez, à l'époque, la plupart du temps, on se contentait de couper les pénis. Très peu prenaient le risque de reconstruire un vagin. Une semaine plus tard, transi par la peur et flanqué de toutes ses notes, Bieber tente l'opération. C'est un succès. L'avenir de la ville est assuré. Depuis, j'ai bien dû pratiquer 4000 opérations du même genre. Personne au monde n'en a fait autant que moi. J'ai 76 ans et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais eu d'accident opératoire. Je suis assez fier de mon travail. Tout cela a fait vivre notre ville pendant près de 30 ans. À présent, cela s'est un peu calmé, mais dans les années 80, mes patients venaient du monde entier. De Chine, de Thaïlande, du Pakistan, d'Europe. Ils ont relancé le commerce local. Et vous avez vu notre hôpital Mount Saint-Raphaël? 70 lits ultra-modernes. Vous croyez qu'une ville comme Trinidad pourrait s'offrir à un établissement pareil? Ce sont les profits de mes opérations qu'ils subventionnent. Reconstructeur d'intimité, médecin industriel, chirurgien des familles, Bieber a élevé 9 enfants, bâti un ranch et une réputation mondiale, sans jamais éprouver la tentation d'exercer ailleurs que sur les rives du purgatoire. Lorsqu'il a lancé sa petite entreprise, il a eu la délicatesse d'inviter le prêtre, le pasteur et le rabbin local pour leur expliquer la nature de son travail et leur parler du gender dysphoria syndrome, cette maladie de l'âme qui donne aux patients le sentiment d'être une femme emprisonnée dans un corps d'homme ou l'inverse. Les trois religieux ont parfaitement compris que la nature pouvait parfois commettre ce genre d'erreur et se sont même proposés pour visiter les futurs opérés si cela pouvait leur apporter un quelconque réconfort. Je dois dire que j'ai été assez fier de leur attitude et de leur réaction à l'époque. Bon, maintenant, venez, on va voir Sacha. Je l'ai opéré ce matin. Sacha est arrivé du Vietnam via Seattle. Lorsqu'hier, il s'est présenté au Mount San Rafael Hospital, c'était un jeune homme de 26 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune femme qui se repose dans la pénombre de sa chambre. Je lui ai refait le sexe en 1 heure et demie. C'est à peu près le temps qu'il me faut. Que ce soit un sexe masculin ou féminin, c'est pareil. J'en ai fait tellement que je pourrais opérer les yeux fermés. Une transformation complète. C'est-à-dire le sexe, les seins, une rhinoplastie pour affiner le nez, et le rabotage de la pomme d'Adam me prend à peu près 4 heures. Et je vous assure que le travail terminé, mes patients, hommes ou femmes, peuvent ensuite sans rougir prendre nu des douches en public. Les tarifs de Bieber sont affichés dans son cabinet. 5 000 $ pour la chirurgie génitale, 1 800 $ pour des seins, 1 500 $ pour une rhinoplastie corrective, 1 200 $ pour supprimer la pomme d'Adam, entre 4 000 et 6 000 $ de frais hospitaliers, comptez 1 000 $ d'anesthésie et 52,74 $ pour le test HIV. À noter que le docteur Bieber n'opère pas de patients d'un poids supérieur à 100 kg. En 30 années de pratique, Stanley Bieber n'a connu que 3 échecs, comme il dit. 3 patients qui, quelques mois après leur opération, ont voulu reprendre leur sexe initial. « J'ai défait ce que j'avais fait. Ce n'est pas très agréable et le résultat final n'est jamais brillant. » En ville, au-dessus de la banque, la décoration de la salle d'attente du cabinet de Bieber date des années 50. Avec ses volumes immenses, ses gros radiateurs bruyants, ses stores cassés qui pendent aux fenêtres, sa vue sur des toits goudronnés, ses 23 fauteuils dépareillés, avachis, recouverts de sky ou d'imitation léopard, l'endroit ressemble à une salle de billard désaffectée. La secrétaire tape quelques rapports. Bieber semble regarder la neige qui fond le long des rues. Un vieil homme entre dans la pièce en traînant les pieds. Il porte une blouse blanche déboutonnée. En l'apercevant, Bieber sourit. « Je vous présente mon associé, le docteur Jiménez. Il a été mon partenaire pour la première opération, celle de l'assistante sociale. » C'était quelque chose, quand même, cette intervention. « Tu te souviens de l'assistante sociale ?» Jiménez se fige, semble fouiller un long moment dans les penderies de sa mémoire, regarde fixement le ciel par la fenêtre et dit « C'était il y a longtemps, cette affaire-là. Oh oui, il y a bien longtemps. Et puis, l'on n'entend plus que le bruit des radiateurs qui claquent dans le silence. »
So hard to find a face. There's a little store on 9th Street.
Selma Chance, désert Mojave, Californie, de mars 2000. Depuis qu'il avait appris son existence, il pensait souvent à elle. Jamais encore il n'avait osé lui parler, mais déjà, il se demandait ce qu'il ressentirait le jour où il la rencontrerait. Il n'était pas le seul à vouloir l'approcher, à désirer passer quelques heures avec elle. Le monde entier ne cessait de l'appeler de jour comme de nuit. Lui, jusque-là, sans doute par timidité, ne s'y était pas encore risqué. Pourtant, le 23 janvier, un peu avant minuit, il décrocha le téléphone et, comme les autres, composa son numéro 001-760-723-9969. Il prit alors conscience qu'elle se trouvait à l'autre bout du monde, à 10 000 km de chez lui, à 9 heures de décalage, seule, isolée en plein désert Mojave à la frontière de la Californie et du Nevada. Il laissa aller une sonnerie, puis 2, puis 3, et le miracle s'opéra. Quelqu'un décrocha, une voix de femme, calme, dit « Bonjour, je suis Selma Chance ». Alors lui songea que pour une fois, il avait eu de la chance. Là-bas, il était 15 heures, il faisait chaud, et à part quelques Joshua Trees, ce n'était que sable et rocailles à perte de vue. Selma avoua être là depuis le matin, et les appels n'avaient pas cessé. Elle racontait la couleur du ciel, l'odeur de la terre, le bruit du vent. Il demanda ce qu'elle avait ressenti quand elle l'avait vue pour la première fois. Une joie qui venait de l'enfance. Il comprit parfaitement ce qu'elle voulait dire. Il la remercia pour toutes ces petites choses, espéra qu'un jour ils se reparleraient, peut-être. et doucement raccrocha. Éteignant sa lampe, il imagina Selma Chance debout dans la lumière, patiente, attentive, prête à décrocher à la moindre sonnerie pour que continue à vivre la cabine téléphonique la plus isolée, la plus insensée et sans doute la plus aimée de la planète. Oui, cette nuit-là, il s'endormit tranquille, sachant que là-bas, Selma Chance veillait. Propriété de la compagnie Pacific Bell, cette modeste cabine d'aluminium était devenue en quelques années une étrange entité, un petit bout d'humanité. Il connaissait son emplacement sur la carte, tout autant que l'histoire de son implantation. Elle avait été installée à la fin des années 60 au plus près d'une mine d'où l'on extrayait de la pierre volcanique, à 5 km du chantier, à 25 du premier village. Autant dire, nulle part. On avait arrêté l'exploitation, fermé le site. Mais la cabine était restée, rendue au silence et à l'oubli du désert. Aujourd'hui encore, il éprouvait un certain plaisir à raconter la suite de l'affaire. En 1997, un randonneur, amateur de solitude et de grands espaces, découvrait l'icône de la cabine sur une carte d'état-major. Intrigué, il partit à sa recherche, la trouva, et à son retour fit le récit de son voyage initiatique dans Wig Out, un magazine underground. Godfrey Daniels, originaire de Tempe, Arizona, propriétaire d'une société informatique, lut l'histoire, s'en alla, lui aussi, dans le désert, en revint transfiguré, au point d'ouvrir aussitôt plusieurs sites internet consacrés à la « loneliest phone booth on earth ». Il diffusa des photos de l'endroit, le numéro d'appel, et multiplia les slogans tels que « Si vous entendez sonner cette cabine, décrochez, c'est moi ». Ou encore ce commandement quasi-biblique « Appelez, appelez sans cesse, et alors ils répondront ». Mettant ses préceptes en pratique, il téléphona tous les jours et obligea ses amis à faire de même. Évidemment, le miracle se produisit. Un matin, quelqu'un qui n'avait aucune raison de se perdre sur cette piste de coyote passa devant la cabine au moment où elle sonna. Il prit le combiné. Il dit son nom. Il s'appelait Coffee. Et on lui expliqua qu'il était le premier. Et qu'à sa suite, c'est le monde entier qui allait carillonner. Oui, il aimait bien raconter cette histoire qui partait dans tous les sens pour toujours aboutir sur les fils plus et masse du 760-733-9969. Il aimait savoir qu'une centaine d'appels émis de tous les continents arrivaient chaque jour à la cabine et qu'il se trouvait des adeptes assez motivés pour entreprendre le voyage jusqu'à la cabine, attendre à son chevet, décrocher, puis dire des choses simples, comme l'heure, le temps qu'il fait, n'être pas trop bavard. Prendre seulement son quart et, en quelque sorte, entretenir la lueur de la vie. Sur Internet, il avait lu les choses les plus invraisemblables à propos de ce téléphone. Lui, il voulait seulement faire sa part, prendre son quart. Le jour de son départ, il composa le numéro. Selma Chance était partie. La sonnerie bourdonna à l'infini. La route n'en finissait pas. Barstow, Ludlow... Après Kelso, il prit un chemin de terre sur la gauche, puis 10 kilomètres plus loin, Aiken Mine Road, une piste de pierre qui mordait le ventre de la voiture. À gauche, il vit le dos rond d'un volcan, le contourna avant de redescendre vers le désert et les Joshua Trees. La cabine était quelque part en bas, enracinée, plantée parmi eux. Il se retrouva pour la première fois, seul et ému, face au grand standard du monde. Il commença par détailler la cabine. Toutes les vitres avaient été cassées et sur les structures, on comptait 6 impacts de balles de 1 cm de diamètre. Certains, recouverts avec un bout de sparadrap, portaient ce message « Bien sûr, vous pourriez tirer sur elle, mais pourquoi donc le feriez-vous » Il parcourut aussi des dizaines de courts textes écrits en capitales sur les parois. Sur les pages notes d'un vieil annuaire fixé au montant de la cabine, il lut le journal de bord détaillé tenu par un certain Dave, à l'âme sans doute greffière. Il avait inscrit le jour et l'heure des appels. Il provenait de Nouvelle-Zélande, du Pérou, d'Allemagne, de New York, du Canada. Près de lui, parfois, un léger souffle soulevait un voile de poussière. Mais aussitôt, nimbé de lumière dorée, le tableau retombait dans le calme et le silence des origines. Bien sûr, il sursauta. Un frisson le parcourut Il eut même le sentiment que ce premier appel, comme une pierre, tombait du ciel. « C'est Ted, de Santa Barbara, ça va ? Franck est là ? Tu es sûr qu'il n'y est pas ? Regarde bien autour de toi, vers les arbres, le désert. Tu devrais l'apercevoir quelque part. Il vient de passer 64 jours au pied de la cabine. Je lui ai parlé tous les soirs. Tu vois pas des affaires à lui traîner quelque part ?» Et il n'eut plus un moment à lui. Semblant posséder sa propre vie, la ligne ne cessa de sonner. Franz, d'abord, de Vienne, Autriche. Il fait nuit ici. C'est bien que tu sois là, que tu m'aies répondu. Tellement que je vais pas pouvoir te parler plus longtemps. Un anonyme lui dit des choses inaudibles du Caire. De Chicago, Rod le pria d'inscrire son nom et son numéro de téléphone sur une paroi de la cabine. De Tampere, Finlande, Rosa lui demanda de décrire ce qu'il voyait autour de lui, l'écouta, sans l'interrompre, lui confia qu'il lui offrait une bien belle nuit, et pour le remercier, fit jouer quelques mesures d'une chanson de Nat King Cole. Le soleil dorait son visage. Il tenait le monde entre ses mains, passait du jour à la nuit, de la nuit au jour, traversait les méridiens, enjambait les tropiques. « Je suis Jim, du Cap, Afrique du Sud. J'appelle pour savoir si j'ai des messages. Laura, t'en as pas laissé un ? Si tu lui parles aujourd'hui, dis-lui que j'appellerai lundi et mardi, et les jours suivants à cette même heure. Tu as compris ?» Tout. Il comprenait tout. Qu'on lui donne des consignes précises. Qu'on le traite comme une boîte vocale. Qu'on lui fasse écouter du Nat King Cole des Septentrions. Il était là pour ça. Il était l'oreille du monde. Il se devait de tout entendre. C'était même dans l'ordre parfait de cette géométrie dans l'espace inscrite à l'intérieur de ce triangle de l'absurde dont il représentait une sorte d'hypothétique hypoténuse. En fin d'après-midi, une femme d'Austin, Texas, lui parla un peu d'elle et lui demanda pourquoi il avait fait un si long voyage. Il marqua un silence, puis s'entendit lui répondre « juste pour décrocher ». Ce jour-là, il reçut plus d'une centaine d'appels. La cabine sonna de jour comme de nuit. Elle sonna pour dire des choses simples, insignifiantes, pour raconter que ça et là, le monde dormait les yeux ouverts, s'agitait, avait le goût de boire et la frayeur du noir. À l'aube, au moment de repartir, il regarda l'immensité du ciel, les bosses du volcan, les arbres de Joshua. Il entendit le vent de l'hiver se frotter contre les buissons, mesura l'étendue de sa chance, nettoya autour de la cabine les quelques traces de son passage, puis resta un instant immobile devant le combiné, priant qu'il sonne une dernière fois, et que ce soit serre ma chance. « Que faites-vous donc là ? » dirait-elle, surprise. Alors, dans la lumière du matin, le visage irradiant cette joie qui venait de l'enfance, il pourrait simplement lui répondre « J'attendais votre appel. »
C'était « L'Amérique m'inquiète » de Jean-Paul Dubois. Texte choisi par Laurent Martin. Cinquième et dernier épisode. Avec Laurent Sauvage et Sonia Masson. Conseillère littéraire Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage Émilie Couette, Sofiane Actib et Julien Douminc. Assistante à la réalisation Manon Dubus. Réalisation Michel Sidoroff. L'Amérique m'inquiète est publiée aux éditions de l'Olivier. Considérant aujourd'hui cette nouvelle et déconcertante blondeur présidentielle, cet univers louche de telenovela adoubé par Wall Street, ce monde informe, sourd et aveugle à ses propres souffrances, je ne peux m'empêcher de revoir le visage et d'entendre la voix prophétique de ce vieux détenu dans une prison du Texas qui, avant de rejoindre sa cellule, me confiait « Je suis encore bouclé ici pour 5 ans. Il paraît que je terrifiais tout mon quartier. Moi, je vais te dire, C'est l'Amérique tout entière qui m'inquiète.